L'évangile de Matthieu, que nous venons d'entendre tout à l'heure dans Matthieu chapitre 5, versets 11 à 16, qui sera la base de notre méditation pour ce matin, d'où le thème choisi par le Jack, Ma foi face à celle des autres. Ce mot foi, la foi, semble être si facile à expliquer à première vue, c'est quoi la foi? Mais lorsqu'on essaie de donner une explication un peu plus cohérente, nous constatons très vite que cela a plusieurs significations. Alors le sens à donner à ce mot varie en fonction de la phrase qui va avec. Alors le thème du Jack aujourd'hui qui a choisi la phrase sous-entend ma foi face à celle des autres. Derrière cette expression ma foi celle à celle des autres, il y a ma conviction religieuse, ma conviction spirituelle confrontée à celle des autres. Donc le terme de foi ici signifie conviction dans ce cadre, puisque derrière il y a une sorte de confrontation. Face aux autres, j'ai ma conviction. Alors comment je vis cette foi que j'ai, cette conviction que Dieu m'a donnée face à celle des autres? Alors, que nous dit l'évangile de Matthieu ce matin? Les autres ne supporteront pas mes convictions religieuses. Et c'est pourquoi ils vont nous insulter, persécuter et nous dire du mal. C'est ce qui est résumé dans Matthieu chapitre 5, versets 11 à 16. Nous allons être insultés à cause de notre foi. Nous allons être persécutés et nous allons subir des paroles blessantes à cause de notre foi. Et en écoutant cela, rien que ces trois choses, le tableau semble être si noir. Et ce n'est pas du tout encourageant, même pour nos jeunes aujourd'hui, qui ont choisi ce thème, mais je suis sûr qu'ils savaient pourquoi ils ont choisi ce thème. Or, le Christ, malgré tout cela, nous demande d'être heureux. Soyez heureux malgré tout cela. Est-ce ne pas trop demander? Comment pourrons-nous être heureux face aux insultes? Comment pourrais-je être heureux face aux paroles blessantes? Comment pourrais-je être heureux surtout face à la persécution qui ne se limite pas simplement dans des mots, mais surtout qui pourrait toucher à ma vie? Il y a une question de vie ou de mort qui est derrière. Et même au verset 12, il rajoute encore une couche. Réjouissez-vous. Non seulement être heureux, mais se réjouir. Alors si Jésus nous demande d'être heureux et de se réjouir devant ces choses que nous devrions subir, pour quelles raisons alors nous devrions l'être? Il ne suffit pas de dire réjouissez-vous, point final. Mais la réponse à cette question, je crois, se situe dans la deuxième partie du texte du verset 13 à 16 que je vais vous relire. C'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il ne sert plus rien à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur la porte-lampe, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Voilà les raisons de la réjouissance. Parce que nous sommes le sel et la lumière du monde. Et là, je vais prendre un par un ces symboles. Le sel, qui a un symbole très significatif dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le sel est utilisé dans les sacrifices, dans les holocaustes, dans l'encens, dans les gâteaux à présenter devant le prêtre. C'est-à-dire que ce sont des fournitures utilisées pour le temple. Et il y avait le sel en permanence dans le temple. Alors rien qu'ici, le sel est le symbole de la sanctification. Deuxièmement, le sel a été utilisé aussi dans l'Ancien Testament à confirmer les contrats. Quand on avait signé les contrats, pas comme aujourd'hui, il suffisait de signer, mais il y avait toute une symbolique. Quand on faisait un contrat, on donnait du sel pour confirmer que le contrat est scellé. Donc c'est un symbole de conservation durable. Alors nous avons ce rôle dans le monde où le Seigneur nous a placés, chers parents, chers jeunes, en reprenant le premier usage du sel en lien avec la sanctification et en tenant compte du thème que vous avez choisi aujourd'hui, face au monde où tout ce qui est notion de sacré, parce qu'on parle du temple, la sanctification, dans ce monde où vous vivez aujourd'hui, chers jeunes, il n'y a plus cette notion de sacré. Tout ce qui est sacré est bafoué maintenant. Tout ce qui est sacré est piétiné. Tout ce qui est sacré est écrasé par la société. D'où même le mot désacralisation. Alors, face à ce monde si fade, qui n'a plus de goût, vous êtes le sel du monde. Vous allez redonner de la saveur à ce monde qui a perdu sa valeur. N'ayez pas peur d'être le sel. Lorsqu'on parle de sanctification, il faut enlever tout de suite dans notre tête tout ce qui est religieux, clérical, etc. Non. Saint veut dire mis à part pour le Seigneur. Et c'est pour cela, par exemple, que le peuple d'Israël est appelé un peuple saint, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, non, au contraire, c'est le peuple le plus récalcitrant. Selon son histoire, un peuple qui a la nuque raide, dit l'Éternel lui-même. Mais si ce peuple est appelé un peuple saint, c'est parce que Dieu l'a mis à part pour proclamer son royaume. Dieu vous a mis à part, soit dans votre famille, dans le djek, dans l'église, ou dans les écoles où Dieu vous a placé. Là, vous êtes appelés à être des saints, non pas seulement dans vos comportements, mais surtout être des missionnaires pour Jésus-Christ. Deuxièmement, lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et là, l'explication que je vais vous donner tient compte aussi de la sphère de l'utilisation du sel, toujours en lien avec le sel qui est annoncé tout à l'heure. Ce dernier, pour rappel, est fort présent dans les sacrifices du temple, le sel. Alors, s'il faut donner une explication concernant cette lumière, ce serait la lumière du temple, d'où l'image que nous avons choisie pour ce culte, le menorah, la lumière dans le temple. Cette lumière qui symboliserait la présence du Seigneur dans le temple lors des différentes cérémonies. Alors, le chrétien est celui, selon moi, qui ramène Dieu présent dans la société, parce qu'à certains moments, et jusqu'aujourd'hui, on a eu la manie de mettre Dieu en dehors de la vie publique. Puisqu'on dit toujours que la foi ne touche que la sphère privée de l'homme. Et on a chassé Dieu de la société. Et donc si Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte de témoigner de cette présence de Dieu dans la société à travers nous. La présence de Dieu, quand Dieu n'est pas là, ce sont les ténèbres qui sont là. La damnation éternelle. Et c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est un lieu où Dieu est absent. Et en parlant de l'enfer, il y a un paradoxe ahurissant. Je ne vais pas vous faire peur, mais c'est juste une réflexion. Qui est-ce qui est le maître de l'enfer? C'est Lucifer. Or, Lucifer signifie quoi? Porteur de lumière. Et il règne pourtant dans les ténèbres. C'est paradoxal. Il est porteur de lumière, or il règne dans les ténèbres. Rappelez-vous aussi l'histoire où Jésus avait été tenté par le diable. Le tentateur est venu vers Jésus en lui montrant le monde et sa splendeur avec ses éclats, ses lumières, ses paillettes. Et juste après que le diable a présenté le monde dans cette forme-là, le tentateur lui a fait une proposition de s'agenouiller devant lui, le maître des ténèbres qui tente à faire agenouiller la lumière du monde. Et c'est là qu'il faut faire très attention pour nous, les jeunes d'aujourd'hui, faisant très attention à tout ce qui est apparence, tout ce qui est paillette, tout ce qui brille, tout ce qui rayonne comme Lucifer, qui est si beau, mais le poison mortel est irréversible dès que tu en touches. Alors notre rôle à nous, si nous sommes appelés à être la lumière du monde, c'est de faire ouvrir les yeux des gens pour pouvoir bien distinguer le vrai du faux. Mais avant d'aller vers les gens, est-ce que nous savons faire cette distinction-là pour nous d'abord? Est-ce que vous, les jeunes, vous savez ce qui est la lumière que Dieu nous a donnée? Apporter la lumière dans le monde, ce n'est pas juste apporter des idées, prêcher la parole de Dieu, mais que cette conviction, comme on dit, ma foi, que nous avons, devrait d'abord transparaître en nous. Et c'est ce qui fera la différence avec les autres. Car de nos jours, il y a trop de démagogie, il y a trop de blablabla, tout le monde sait parler. Mais est-ce que ce que tu proclames transparaît dans ta vie? Faites briller la lumière qui est en vous, dit la parole. Cette phrase-là, je l'ai prise un peu en dehors du contexte, parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui fait un peu peur. Pour une personne qui n'a pas encore lu la Bible, ni les évangiles, il pourrait facilement tomber dans les propos de ceux qui véhiculent aujourd'hui les théories du développement personnel. Fais briller la lumière qui est en toi. Et ça devient en vogue aujourd'hui. Ces mouvements spirituels qui incitent les gens à rentrer en soi-même et chercher une lumière qui est déjà en eux, c'est un discours qui circule dans la société moderne aujourd'hui. En toi, tu as la lumière. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu as une lumière en toi. À toi de l'exploiter. Est-ce que c'est ça que Jésus avait dit? Ce que Jésus parle ici n'a rien à voir avec cela. La lumière en question, ce n'est pas notre lumière. La lumière, rappelons-nous, c'est la présence du Christ en nous qui crée cette lumière. Verset 15 de notre texte. L'image qui est derrière cette métaphore donnée par Jésus nous dit que la lumière de Dieu a une force qu'on ne peut pas faire obstacle. Et cela me fait rappeler le récit de la création. Vous vous rappelez la création? La création commença par quoi? Si vous lisez Genèse chapitre 1, par le phénomène de séparation. C'est tout simple. Dès que vous lisez le premier verset, Dieu sépara le jour et la nuit. Dieu sépara les eaux d'en haut et d'en bas. Dieu sépara le continent et les océans. Donc la notion de création commence par la séparation. Mais avant de faire cette séparation, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier verset, l'Éternel a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait en premier? La lumière. Genèse chapitre 1, verset 1. Et ce n'est qu'après cela qu'il a pu faire la séparation. Impossible de faire la distinction entre le bien et le mal, le vrai et le faux, sans cette lumière que Dieu nous donne. Donc cette lumière ne vient pas de moi. Cette lumière, c'est la présence du Christ dans nos vies. Alors, chers amis, chers jeunes, si le Christ nous dit que nous sommes la lumière du monde, cela signifierait alors que nous serons des instruments de création de Dieu. Nous serons des instruments dans les mains de notre Seigneur pour permettre aux gens de faire cette distinction, de bien faire cette séparation et savoir faire la distinction dans ce monde des ténèbres. Et ça, vous, vous l'avez. Le monde ne l'a pas. C'est pour cela qu'il dit « Réjouissez-vous, soyez heureux, vous avez ça en vous, grâce à l'Esprit de Dieu. » Alors réjouissons. Et comme le Seigneur Jésus l'avait dit, c'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir, ni le connaître, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qui sera toujours en vous. Amen.